Musique et nouvelles technologies, des relations qui changent, des relations 2.0, des relations contradictions. À l'occasion des rencontres professionnelles Marché virtuel, marché autonome, révolution numérique et nouveau modèle économique de la musique, rencontre professionnelle organisée par l'AMI, Centre national de développement pour les musiques actuelles, nous recevons le 12, le 11, 12 et 13 juillet à Marseille, nous recevons en plateau aujourd'hui Sarah Altaras de Mila, Laurent Benamou de Mondomix et Patrick Chazal de Perséphone pour évoquer et chercher ensemble à sortir de ces relations compliquées. Effet de parc des lecteurs MP3 qui font exploser avec le peer-to-peer les échanges et les logiques de distribution. Explosion aussi de l'offre, plateforme collective d'internautes, d'artistes, multiplication des sites de musiciens sur MySpace, Star Academy 7 ou 8, Nouvelle Star 9 ou 10, concentration des majors, poussée des producteurs, éditeurs, diffuseurs indépendants, rapports, études multiples et variées, mais aussi législations qui se veulent répressives. Comment imaginer une sortie de crise vers une musique 2.0, peut-être, si crise véritablement il y a ? Alors peut-être pour commencer, bonjour à vous trois.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Un petit tour de table pour présenter vos différentes initiatives, toutes plus ou moins récentes, assez innovantes, à des endroits assez décalés, puisque autour de la table, a priori, on n'a aucun artiste, aucun musicien. Mais plutôt des gens qui ont entrepris une démarche pour accompagner ces évolutions de la musique. Sarah, le Mila.
Oui, ben,
qu'est-ce que c'est ?
Bonjour, donc, moi je suis coordinatrice du Mila, qui signifie Marché indépendant des labels. C'est une association de soutien à la production et à la diffusion musicale indépendante, basée dans le 18e arrondissement à Paris.
Une forme de pépinière, d'espace d'accueil, d'accompagnement ?
Oui, ça s'apparente à une pépinière puisque on propose des locaux, des salles de réunion, un centre de documentation et également du conseil. Donc on n'a pas le statut de pépinière, mais effectivement on apporte à peu près la même chose qu'une pépinière.
Et dans des bribes de discussion que j'avais entendues tout à l'heure, il y a quelque chose de l'ordre du territoire qui se joue avec Mila sur le 18e arrondissement ?
C'est-à-dire ?
Quelque chose qui fait que ben c'est pas, c'est plus ou moins naturel, c'est pas tout à fait artificiel que Mila se fabrique dans le 18e arrondissement, non ?
Bah, c'est-à-dire qu'à la base, c'est une initiative d'une élue du 18e arrondissement qui s'appelle Laurence Goldgrab. Et donc, c'est elle qui a eu l'idée de Mila au départ. Elle est également avocate en droit de la propriété intellectuelle. Et donc, Mila est née d'une rencontre entre cette personne et des professionnels de la filière musicale.
Et donc, basée sur le 18e arrondissement, pas du tout le...
Les professionnels en question,
oui.
Non.
Pas forcément.
Non.
Mais avec une dynamique, a priori, qui joue, vous en discutiez tout à l'heure, qui se joue quand même sur le 18e arrondissement, quelque chose qui va au-delà, simplement, de résoudre une problématique de crise artistique aujourd'hui, non ? Avec des festivals,
c'est-à-dire
des espaces
qu'il y a,
de rencontres, des formes de proximité.
Il y a des formes de proximité, mais on n'est pas exclusivement sur le 18e arrondissement. Il y a néanmoins un partenariat avec le festival 18 en scène, qui a lieu au mois de septembre et qui programme en majorité des artistes issus des structures de Mila. Donc effectivement, il y a une dynamique par rapport à cet événement. Mais on va au-delà du 18e arrondissement sur d'autres actions.
Alors Mondomix, a priori, on connaît. Ça date du siècle dernier,
ouais.
C'est ça ? Ouais.
Ça date de 1998, c'est un magazine dédié aux musiques du monde, qui a été créé par Marc Benaïch et qui a d'abord existé sur le web à l'époque de la bulle. C'était un des premiers webzines en France. Il a été récompensé pour ça d'ailleurs à l'époque.
Oui, le prix UNESCO.
Oui. Hein et voilà, qui a grossi, grandi pour médiatiser une frange musicale pas forcément très médiatisée, pas trop dans le courant mainstream. Donc les musiques du monde, mais au-delà du... de l'aspect traditionnel de ces musiques, les musiques métissées dans l'absolu.
Et qui s'est diversifié, magazine webzine qui s'est diversifié.
Qui est devenu un magazine papier aussi, il y a
trois
ans.
Production de DVD.
Oui, pas mal de produits dérivés, montés notamment autour de partenariats forts qu'on a pu créer au cours de ces 9 années d'existence pour l'instant, avec le Théâtre de la Ville, avec la Cité de la Musique, avec des festivals.
Quand tu emploies le terme produit dérivé, c'est une nécessité commerciale ou aussi quelque chose qui, dans une société dans laquelle les supports, les modes de diffusion, les types de pratiques explosent, qui aussi accompagne ça?
Nécessité commerciale, oui et non. Disons que c'est pas, on ne fait pas des produits dérivés une volonté absolue de gagner de l'argent, mais c'est plus une manière d'abord de parler de choses dont on a envie de parler en prenant un petit peu plus de temps. En développant un petit peu plus. Sur le site, il y a énormément d'informations, mais notamment beaucoup de vidéos, mais tout ça se limite à des petites capsules, même si c'est assez enrichissant et plutôt intéressant, je l'espère, ça reste quand même très très court. Donc voilà, les produits dérivés, c'est l'occasion d'approfondir un petit peu le discours, et puis c'est aussi l'occasion de permettre d'identifier encore un petit peu mieux le magazine, avec cette volonté de parler de culture, du métissage et puis par là de l'acceptation de l'autre. Enfin, ça, après, on peut aller très très loin dans l'exploration du concept, mais on considère assez fortement que la musique est un vecteur d'intégration fondamental. Et c'est pour ça qu'on en parle au maximum tous les jours.
Et de manière différente. Alors Perséphone, c'est la petite dernière des structures, 2005.
Oui, 2005.
Un peu plus de deux années d'expérience, basée à Lyon.
Voilà, c'est ça. Alors c'est d'abord un site internet de vente en ligne de musique. Téléchargement, vente par correspondance de disques. Avec une sélection musicale de musique indépendante essentiellement et d'autres productions aussi. Voilà, et puis un aspect promotion des artistes avec des fiches artistes un peu détaillées dans lesquelles on peut voir un petit peu ce qu'ils ont fait dans leur vie et puis avoir quelques photos de scène, ce genre de choses-là. Voilà, et globalement, après, c'est une structure qui est basé sur un postulat éthique pour contredire un peu le grand business qu'est la musique souvent, dans le sens où on essaye de rémunérer davantage les artistes que ce qui se fait habituellement sur des plateformes de téléchargement, et puis...
Une forme de commerce équitable.
Voilà, c'est ça, ouais, c'est ça.
De la musique.
Ouais.
Avec des artistes, un peu sur la même question de... Sarah, avec des artistes plutôt du milieu lyonnais qui se basent là, ou avec une idée de, à partir de Lyon, de développer ce type de plateforme?
C'est un peu ça, c'est-à-dire qu'effectivement, à la base, il y a quand même un gros support régional, il y a pas mal de musique dans la région, donc on essaye de promouvoir ça, mais le but c'est de développer de plus en plus le côté national et international, donc il y a déjà de l'import de musique improvisée, notamment berlinoise ou chose comme ça. Il y a des groupes nationaux qui viennent d'ailleurs aussi, donc ouais, le but c'est de développer ça de plus en plus pour que ça prenne de l'ampleur un petit peu au niveau du catalogue, quoi.
Et avec des liens que Laurent les évoquait tout à l'heure, des liens avec des festivals, etc. Vous aussi, vous êtes dans une logique où le web est un endroit où ça diffuse, ça distribue, avec des liens sur du concert, du festival, choses un peu plus concrètes et réelles.
Ouais, on fait un petit agenda, et puis on relaye aussi des dates de concert proches ou moins proches dans une newsletter. Donc il y a un petit agenda où on fait une petite sélection de ce qui se passe dans les lieux de concert, à Lyon ou ailleurs d'ailleurs, parce que on essaye de faire des parallèles avec d'autres endroits. Donc on relaye aussi des concerts dans d'autres villes de France, parce que c'est aussi l'intérêt de promouvoir un petit peu des choses diverses et variées qui se passent un peu ailleurs, et que le net permet ça, donc autant en profiter au maximum.
Dans la chaîne un peu classique de la production musicale, de la production des musiques enregistrées, je découvrais le terme dans la présentation de ces rencontres professionnelles, où on a l'artiste qui va être produit, qui va être diffusé, distribué, vous vous situez les uns les autres un peu à quel endroit? Parce que dans vos présentations rapides, on l'entend, c'est des structures un peu hybrides, hein, on commence à un peu, je dirais entre guillemets, dans l'air du temps, parce qu'on commence à taper un peu sur différents types de métiers, enfin, on croisait un peu les différents métiers. Pour toi, Sarah, tu serais mis là, ça serait à quel endroit de cette chaîne un peu classique? Est-ce qu'elle est quand même ailleurs aujourd'hui, Où est-ce qu'elle se place
Elle se place plutôt en parallèle du moment de production et des différentes phases de diffusion. Elle n'en est pas partie intégrante, mais dans la mesure où elle soutient ces étapes-là, je pense qu'on peut, on peut la situer à cet endroit.
À cet endroit-là, un peu à côté. Ouais. Laurent, tu évoquais tout à l'heure la question que les musiques du monde n'étaient pas mainstream. C'est aussi une position un peu alternative. Enfin, alternative au sens d'autres types de voix, voix parallèle.
Oui, c'est forcément une position alternative, mais presque de fait. C'est pas forcément une volonté que de créer un mouvement parallèle. C'est juste la volonté de mettre en lumière des cultures ou des mouvements musicaux dont on parle pas forcément ou pas assez. Voilà. Et puis pour revenir sur ce que tu demandais juste avant, nous on se situe clairement dans l'espace de promotion et de médiatisation.
Oui, l'espace final.
Des artistes, oui. Mais pas si
avec
final
des envies
que ça.
De produire, avec des envies de produire dans tous les choix que vous... Parce que là, d'un coup, vous êtes un peu un agrégateur de contenu, c'est-à-dire que vous faites des choix, vous éditez, vous...
On est un agrégateur de contenu, d'autant plus que on l'est au sens propre du terme par notre activité Mondomix Musique, qui sera bientôt en ligne et qui sera une plateforme de vente de musique dédiée également aux musiques du monde. Mais non, on n'a pas forcément une volonté de produire. On adorerait, pourquoi pas un jour, produire un artiste, mais c'est vraiment pas l'actualité du moment. Pour l'instant, notre préoccupation, c'est le média, sa diffusion la plus large, et puis cette volonté de faire découvrir d'autres musiques, d'autres cultures.
Dans cette un peu multiplication de fabrication de contenu pour vous deux, Laurent et Patrick, il y a pas déjà surabondance de contenu? J'évoquais tout à l'heure dans l'introduction que puis c'est des choses aussi que vous disiez tout à l'heure au repas. Il y a de plus en plus d'artistes, de plus en plus de producteurs.
Oui, il y a sans doute.
Vous ne rajoutez pas une couche supplémentaire d'indistinction dans ce monde dans lequel on ne sait plus trop quoi écouter, choisir?
Justement, à la limite, on essaye de guider les auditeurs ou en tout cas l'audience en général vers des choses auxquelles ils n'auraient pas forcément pensé. Donc l'idée, c'est plus de faire découvrir. Après, il y a surabondance, sans doute, et de plus en plus. Mais il y a aussi, quelque part, une sélection naturelle qui peut s'opérer sur le web. Il y a une vraie importance dans la ligne éditoriale, la fidélisation d'un public et le rôle de prescription d'un média. Donc, est-ce qu'il y a surabondance ? Peut-être, mais il y a aussi de la place pour beaucoup de monde. Donc,
c'est pas forcément une surabondance au sens strict, parce que finalement l'abondance en général elle est plutôt positive. Après, effectivement, le côté surabondance, tu disais, il y a une sélection qui se fait. Elle est, du coup, c'est un petit peu la loi du plus fort aussi, malheureusement, ce qui fait que celui qui est le plus
sans vouloir écraser ou quoi que ce soit. Hein.
Oui, non,
c'est pas ce que je pensais. Hein.
Non, bien sûr, bien sûr. Mais c'est dans l'idée, c'est vrai que finalement, dans ce monde-là aussi, ce qui passe en premier, c'est quand même souvent, mine de rien, ce qui a le plus fort pouvoir de communication. Donc c'est vrai que le rôle qu'on peut avoir aussi, c'est finalement de comme tu disais, de guider les gens en leur ouvrant les oreilles sur des choses auxquelles nous on est sensible et qu'on a envie de mettre en avant et de promouvoir et de faire écouter aux gens en avant d'autres choses, quoi.
Parce que là, d'un coup, on voit apparaître autour de vos deux expériences une sélection pour l'auditeur. Sarah, la sélection, Amila, elle se fait au début. De qui
oui,
peut rentrer dans cette dynamique collective?
En fait, on soutient des entreprises qu'on a précédemment sélectionnées pour la qualité de leur projet. Donc effectivement, la sélection se fait au départ. Oui, il y a un critère de qualité de projet artistique. Alors évidemment, avec une grande part de subjectivité, mais enfin, c'est un des critères essentiels.
Est-ce que vous voyez apparaître dans ce milieu-là avec d'autres structurations qui sélectionnent pour l'auditeur? Est-ce que vous voyez un changement, vous, de métier, de l'artiste, de vos métiers, petit à petit, vers quelque chose où tout le monde devrait être ou pourrait être entrepreneur? Toi, tu parles d'entreprise qui rentre, c'est entreprise artistique. Mon avis, autour des artistes que tu suis, dont vous faites la promotion, Patrick, il y a aussi des artistes qui deviennent de plus en plus eux-mêmes leurs propres entrepreneurs, des gestionnaires de leur propre petite entreprise.
Ben, il y a ça, et puis enfin, au niveau des labels, au niveau de même de l'autoproduction aussi, chacun essaye de se prendre en main le plus possible. Et après, il y a, tu parlais de métiers tout à l'heure, je sais pas si les métiers évoluent, il y a des choses qui évoluent, ça dépend des secteurs vraiment d'activité. Je pense que par exemple, la production est forcément amenée à évoluer dans le sens où, enfin, à mon avis en tout cas, elle va se faire de plus en plus en direct sur, vers un vecteur dématérialisé, alors que, enfin, voilà, jusqu'à présent, c'était surtout le support d'abord. Mais je pense que du coup, de plus en plus, l'activité, par exemple, d'un net label où, va se développer. Et on va de plus en plus avoir un changement un petit peu pour le coup du métier de production qui va se passer presque en direct, quoi. Et ça, c'est plutôt positif, je trouve, même de la. Par rapport aux artistes qui, du coup, peuvent faire les choses un peu en direct davantage, quoi.
Alors, est-ce que les auditeurs, pour vous trois, est-ce que, en tant qu'auditeurs, parce qu'on est tous aussi les uns les autres auditeurs de musique, est-ce que vous pensez que, du point de vue de l'auditeur aujourd'hui, on peut continuer à écouter de la musique comme on l'écoutait avant ?
Ben, en tout cas, il y a un accès à la musique qui est beaucoup plus...
Parce que là, d'un coup, on parle plutôt du côté production, accompagnement d'artistes, ouais. Mais du côté de l'auditeur, d'un coup, s'il changerait des pratiques ?
Bah clairement, les pratiques, elles ont changé, évolué. On n'a plus besoin d'aller acheter un disque justement pour pouvoir écouter un artiste dont on a parlé dont on a entendu parler deux secondes avant dans une discussion quelconque. On se connecte.
On télécharge.
Pas forcément télécharge, mais en tout cas, il y a sans doute un moyen. Il y en a même plusieurs d'écouter l'artiste le plus inconnu sur le web et quasiment immédiatement. Donc oui, les pratiques d'écoute, elles changent, mais bon, les pratiques de sélection aussi doivent changer. Peut-être que l'auditeur de musique aujourd'hui est beaucoup plus zappeur qu'avant, donc c'est peut-être aussi dans ce foisonnement d'autant plus difficile pour l'artiste d'émerger.
Oui, moi c'est ça, je pense que finalement des artistes peut-être plus inconnus à la base ont la possibilité d'être exposés. Puisque très facilement, on peut avoir sa page MySpace. On peut aussi très facilement autoproduire son album, ce qui était peut-être moins le cas avant. Maintenant, comme il y a vraiment un foisonnement, pour être écouté derrière et pour rester dans la durée, je pense que c'est pas évident, parce qu'effectivement, on n'a jamais écouté autant de musique, mais je pense que l'écoute est très différente, peut-être moins approfondie. Et tu parlais d'auditeurs zappeurs, je suis assez d'accord avec ça finalement.
Je suis assez d'accord.
Patrick,
il y a un côté que moi je trouve très positif.
C'est sympa, tout le monde est d'accord autour de la
table. Aussi dans le côté zapping, c'est que
c'est non que... pas que je veux une confrontation, hein, au contraire.
Moi je trouve le côté zapping sympa. En fait, c'est vrai que du coup il y a un peu de perte d'attention, je pense, dans l'histoire. Mais c'est vrai que, par exemple, beaucoup de gens qui ont dit beaucoup de mal du peer-to-peer en général, moi je trouve que pour le coup ça a apporté un truc énorme, c'est que ça a apporté une faculté, une possibilité de découverte qui est hyper importante, même si ça pose plein de questions, plein de problèmes, enfin ça, je trouve qu'on y a plutôt gagné. Et du coup, effectivement, peut-être que la tension se dissout un peu, mais ça permet de passer d'un style musical à un autre sur des trucs qu'on n'aurait absolument jamais écouté avant, quoi.
Mais est-ce que vous mettiez un peu de grand écart, parce que l'écart devient de plus en plus grand comme ça entre les artistes et le public, ne serait pas au contraire de ne plus s'occuper des artistes, mais de s'occuper que du public pour leur réapprendre à écouter?
Vas-y.
Patrick.
Non, mais bon, après, c'est vraiment...
Changer complètement à un moment donné. Imaginez de changer complètement vos métiers. Parce que là, vous sortez une...
Bah, les métiers, de toute façon, clairement, les métiers des médias ont beaucoup évolué, et notamment à cause du web. Aujourd'hui, un journaliste sur le web, c'est faire beaucoup plus de choses. Sans vouloir dire que dans les médias classiques, on est mauvais, hein, mais simplement, les compétences à intégrer, elles sont finalement plus importantes, parce qu'il va pouvoir écrire, réaliser de la vidéo, monter une interview audio, bref, des compétences techniques un petit peu plus riches. Après, le rôle du média même, c'est de prescrire quelque part, donc de faire une sélection subjective et de dire, on a découvert ça, ça vaut le coup de jeter une oreille. Après, ça s'arrête là. On n'a pas un rôle éducatif, en tout cas pas au sein de Mondomix. C'est encore que on pourrait débattre aussi là-dessus. Mais
pourquoi pas?
Pourquoi pas, ouais. Bah, c'est, après, sans cette prétention, en tout cas. Mais c'est d'abord la volonté, oui, de défricher un petit peu en amont pour offrir une sélection.
Sarah, s'occuper des auditeurs ? Monter oui. Une pépinière d'auditeurs ?
On n'a pas vraiment réfléchi à la question, en fait.
Il faut que leur projet artistique soit béton.
Aux auditeurs ?
J'ai de très bonnes oreilles.
Et comment former autre chose ? Parce qu'une expérience qu'on avait reçue à Arte Radio il y a un an et demi ici. Et Arte Radio fait des séances d'écoute au Point P à Paris. Non, au point éphémère. Voilà, l'ancien Point P. Au Point éphémère. Et font tout un travail aujourd'hui autour de l'écoute. Est-ce qu'on pourrait imaginer aujourd'hui d'amener les musiciens ou d'amener. Parce que d'un autre côté, Arte Radio, même s'il y a beaucoup de réalisateurs, c'est aussi un endroit où on agrège du contenu, on fabrique, on agrège du contenu, on fait de l'éditorial sur le contenu son. Est-ce qu'on pourrait imaginer que les musiciens, au-delà de la question du concert, de manière dont ils peuvent se produire en public et de manière réelle, quand je parle de métier, effectivement, on passe d'un métier de pédagogie presque à se dire mais comment est-ce qu'on va produire pour faire écouter avec un changement de l'écoute ?
Ça se fait de plus en plus, la partie, le volet pédagogique dans le travail de musicien existe de plus en plus. Il y a des projets notamment montés avec des centres culturels ou avec des écoles où les musiciens, en plus d'un concert, vont faire un atelier d'écoute ou un atelier de création. Donc ça, je pense que ça a tendance à se développer pas mal en ce moment.
Dans le cadre des festivals aussi, ça arrive ce genre de choses. Enfin, je parlais tout à l'heure avec Perséphone, du coup, nous, on va essayer de faire un festival de musique improvisée à Lyon en janvier. Et c'est le genre de choses où ça semble assez important de faire découvrir aux gens un peu plus les pratiques, même instrumentales, des bidouillages que les gens font pour produire du son, etc. Et qu'ils aient un accès à ça, qu'ils puissent en débattre avec les musiciens. Ça, c'est intéressant.
Et ça change un peu les discours qu'on a, qu'on subit sur d'un coup la crise de la musique, la crise de cette industrie-là. Des choses que vous, par rapport au discours un peu médiatique dominant, tu parlais tout à l'heure de mainstream, on est aussi dans un discours un peu mainstream, là, de dire voilà, les utilisateurs du peer-to-peer, c'est des pirates. Attends, Pascal Nègre, nous là, c'est mal. Là, Pascal Nègre, il nous l'a bassiné là pendant deux ans. Une directive de la CNIL qui voulait interdire. Le traçage automatique par les fournisseurs d'accès des gens peer-to-peer vient d'être cassé par le Conseil d'État ou le Conseil constitutionnel. Donc d'un coup, on va arriver dans un monde vraisemblablement peut-être un peu plus répressif. Comment vous vivez ça de vos différents endroits ?
Moi, je pense qu'on ne peut pas... il ne faut pas minimiser l'impact qu'a eu le piratage sur l'industrie musicale parce que en termes de vente, que ce soit pour les majors ou d'autant plus pour les indés, c'est énorme. Donc pour moi, le terme de pirate n'est pas usurpé. Après, je pense qu'il faut trouver des solutions qui soient pas forcément dans la répression pure et dure. Il faut trouver des solutions alternatives également pour que les gens se remettent à acheter de la musique. Enfin, cela dit.
Est-ce que c'est vraiment une. C'est
dans... Je sais pas si on arrivera à faire en sorte que les gens se remettent à acheter de la musique.
Ouais. Parce que, au final.
Mais on peut trouver sans doute des solutions pour monétiser de nouveau cette musique.
Parce qu'on l'achète d'une certaine manière, on l'achète que depuis très récemment, en plus, la musique. Enfin, c'est une centaine d'années, quoi. On n'est pas. La musique se faisait dans des salons, la musique.
C'est qu'avant, il n'y avait pas de support, en fait. Ouais. Il n'y avait pas de phonogramme. Donc,
Et puis là, d'un coup, on se retrouve dans un truc où il n'y a plus de support maintenant. Presque.
Non, mais il y a encore des lecteurs, par contre.
Oui,
mais c'est des lecteurs presque de flux. Cela arrive, les radios Wi-Fi.
Non, mais c'est pour ça que, pour moi, imaginer un système répressif qui empêche les gens de disposer un peu de la musique comme ils l'entendent, ou même de la copier plus ou moins, ou d'essayer de vouloir tout contrôler, c'est absolument impossible, c'est impensable, et c'est pour ça que pour moi, pour le coup, je trouve le terme de piratage, c'est une espèce de vaste... c'est une opération de communication qui est assez grave, je trouve, parce que... Alors, certes, il y a des gens qui perdent
plein d'argent avec ça, etc. Déjà, je pense que c'est les plus gros qui en perdent le plus.
En valeur, oui, mais après, voilà. Peut-être pas.
Ce qui me choque après, pas fondamentalement, mais ce que je veux dire, c'est que imaginez qu'on va tout contrôler, c'est pas possible. Et en fait, il y a un rapport, il y a pas longtemps, qui a été commandé par le gouvernement, c'est un avocat qui a fait ça, sur justement, est-ce qu'on peut arriver à contrôler ça, etc. Et en fait, le rapport est dramatique. Enfin, il est hyper clair, c'est-à-dire que c'est absolument impossible de revenir en arrière. Enfin, ce mode de diffusion, il s'est déjà tellement développé qu'on peut pas maintenant faire de la répression pour essayer d'empêcher que, parce que de toute manière, ça suscitera la réaction inverse aussi, c'est-à-dire, et ça a déjà commencé à le faire, c'est-à-dire que du coup, les gens vont d'autant plus télécharger par résistance à ça, et puis parce qu'ils ont été sensibilisés au problème, etc. Donc je pense que la solution, elle est plutôt d'expliquer aux gens comment marchent les choses, ce qui est déjà vachement compliqué, en général.
Plus que difficile.
Même les musiciens et le milieu, souvent, a du mal à s'y retrouver. Alors, l'auditeur, il est paumé. Donc c'est vrai qu'il faut expliquer aux gens que s'ils ont envie de soutenir les artistes, il faut qu'ils achètent la musique, etc. Et que s'ils téléchargent la musique sur un réseau peer-to-peer, ben, effectivement, s'ils ont envie de soutenir l'artiste, il faut qu'ils l'achètent. Voilà. Je crois que c'est ça l'essentiel, mais on pourra pas faire de la répression.
Qui est presque une question de société.
Ouais.
Au final, et pas simplement, qui est un peu mise en avant par cette problématique dans la musique, mais qui est presque une question de société de se dire.
En fait, je pense que
quel type d'économie on peut.
Moi,
je sais pas.
Ouais.
Sarah.
Il faut aussi expliquer au public que. En fait, ça fait souffrir les maisons de disques, c'est une chose, mais ça empêche de développer de nouveaux artistes. Mmh. Donc, pour les gens qui aiment vraiment la musique. Il faut voir que dans le cheminement, pour produire un artiste, ça demande des moyens en amont, et que si les maisons de disques n'en ont plus, c'est quand même mettre en péril la diversité musicale. Et donc je pense qu'il faut vraiment, parce que je crois que les gens, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas conscience de l'impact sur les moyens de production, quoi.
Laurent.
Je sais pas, moi je suis moins optimiste, je pense pas qu'on puisse rééduquer les consommateurs. Et même en les sensibilisant, je ne sais pas si ça, peut-être, ça changera le comportement de certains, mais je n'ai pas la certitude que ça la changera de manière globale. Donc, je crois qu'on est allé déjà très loin et que ça va être difficile de faire marche arrière. Donc, il faut trouver d'autres solutions avec les industries pour à nouveau influer de l'argent, insuffler du cash dans l'industrie culturelle. Et pour exactement, pour sauver cette diversité culturelle, éviter que des artistes soient dans des situations de plus en plus précaires, et notamment les plus petits, les moins exposés, les moins médiatisés. Parce qu'effectivement, ceux qui sont ceux qui bénéficient des grosses machines marketing, ils vont continuer à vendre du titre, ils vont continuer à placer leur musique sur des films, sur des pubs, etc. Et donc à gagner de l'argent du fruit de leur production. Quoi.
Patrick.
Non, j'allais juste ajouter que de toute façon, les gros, ils font déjà pas vraiment beaucoup de nouvelles musiques, donc c'est plus important pour les petits,
ouais.
Effectivement. Quoi.
Ouais, sinon on arrive à un nivellement musical, on va vraiment arriver sur les mêmes yaourts, mais avec juste des goûts fruits différents. Quoi.
Ouais, c'est ça.
Bon, en étant utopique aussi, peut-être imaginer complètement aussi d'autres manières d'envisager l'économie, le travail, la valeur du travail. Avec d'autres discours dominants aussi qui reviennent ces temps-ci,
oui,
qui peut-être donner qui peuvent peut-être donner une autre manière de produire la diversité culturelle.
Sans doute.
Merci beaucoup à vous trois d'avoir accepté de venir
en
plateau pour cette escale marseillaise pour les uns et les autres. Alors dans l'actualité de Mila, une compile qui vient de sortir en juin, qu'on trouve à Mila.
Qu'on trouve à Mila, puisque c'est une compile, elle a été distribuée gratuitement via Musique Info Hebdo. Un magazine de presse musicale professionnelle. Mais si vous voulez vous la procurer, oui, effectivement, il faut venir nous rencontrer à Mila, dans le 18e, à Paris.
Sur lequel on retrouve 17 titres de 17 entreprises que vous accueillez.
Voilà, en fait, le principe, c'était de mettre un titre de chaque structure pour permettre à ces entreprises de se faire connaître.
Pour Mondomix, pour cet été.
L'actualité, on va être sur beaucoup de festivals, donc il y aura beaucoup, beaucoup de vidéos à voir en ligne sur mondomix.com. Et puis la sortie tout à fait récente du nouveau numéro Mondomix Papier, disponible partout, gratuitement, avec Idir en couverture.
Et pour Perséphone, Patrick ? Et bien sûr, avant le festival des musiques innovantes.
Ouais, ça sera un peu plus tard en janvier. On va, il y a plusieurs choses. On va intégrer une partie du label HAK Lofi Records, qui sont nos voisins à Lyon. On travaille les locaux d'à côté. Et puis, il y a une traduction anglaise du site aussi qui est en cours et qui devrait, je l'espère, être en ligne à la rentrée.
Pour exister dans le monde entier.
Voilà.
En tapis, c'était un titre Biaka de Shérif qu'on a dégoté sur internet, qui est édité par un label de musique électronique égyptien, basé au Caire, qui s'appelle 100 Copies, que l'on peut trouver sur internet. 100 Copies en chiffres, 100 donc, copiesius.com. Merci à Djilali dans la salle des machines. Bon été à tous.